France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Arnaud Bertina. J'ai lu le livre des obus, des fesses et des prothèses et je tenais à vous dire que j'avais vraiment beaucoup aimé ce titre. J'ai aimé la façon dont vous avez raconté l'histoire de ces corps, pour certains défaits par la guerre et puis pour d'autres défaits par la chirurgie esthétique. Ce partage l'espace autour d'une piscine d'un palace tunisien.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Des obus, des fesses et des prothèses dans votre book club aujourd'hui, c'est ce que nous offre le dernier roman d'Arnaud Bertina. Un récit entièrement scié dans un palace du Tunisien déserté après la chute du dictateur Ben Ali, lieu d'accueil transitoire de deux groupes d'êtres cabossés. D'un côté, des hommes diminués, rescapés de la guerre civile qui gronde dans la Libye voisine et dont les membres mutilés tourmentent les âmes et les cœurs abîmés. De l'autre, des femmes augmentées, de nouveaux corps qu'elles sont venues s'offrir par le recours à la chirurgie esthétique, mais qui pour l'heure, sont encore tout couverts d'hématomes. Deux groupes qui s'écoutent et se toisent et que l'on découvre par la voix de quatre personnages qui composent le cœur d'une farce grotesque et tragique qui dit les guerres qui grondent au-dedans comme au-dehors et l'histoire qui se lit aussi dans les corps. L'auteur est notre invité. En fin d'émission, comme chaque jour, nous jouerons à trouver de la musique dans un livre et il y en a un petit peu dans celui d'Arnaud Bertina. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Arnaud Bertina.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de ce livre. Des obus, des fesses et des prothèses, c'est son fort réjouissant titre. Il a paru aux éditions Verticales, c'est votre 9e roman, je crois, et on va en parler en détail tout à l'heure. Mais pour commencer ici au Book Club, on essaie toujours en préambule de faire le portrait de nos invités en tant qu'ils sont des lecteurs, des lectrices, de raconter un peu leur découverte, leur rapport à la lecture et la place qu'elle occupe ou non dans leur vie aujourd'hui. Quand est-ce que ça a commencé pour vous, cette histoire-là? Quand est-ce qu'elle est rentrée dans votre vie, la lecture, Arnaud Bertina?
Peut-être très tôt. Je pense que ma mère nous a lu très très vite des tas d'histoires, à mes frères et à moi. Mais aussi parce que très tôt, parce que d'emblée chez mes grands-parents, il y avait une sorte de hiatus incroyable entre la famille paternelle et la famille maternelle. Chez l'un, il y avait une pièce qui était la bibliothèque et qui n'avait pas d'autre fonction que celle-là, que d'accueillir des livres. Et chez les autres grands-parents, il n'y avait pas un seul livre. Parce que milieu complètement différent, milieu ouvrier, etc.
Et alors, à savoir, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu, c'est la grande bibliothèque,
la grande bibliothèque, c'est chez le grand-père chirurgien, ouais. C'est du côté de la mère, et l'absence de livres, c'est du côté du père, et c'est un grand-père ouvrier chauffagiste. Donc voilà, les deux bouts presque du spectre social. Mais dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est que le livre était un objet précieux, aussi bien pour les uns que pour les autres, pour celui qui en avait comme pour celui qui n'en avait pas. Et ça, je pense que c'est le genre de choses qu'un enfant comprend très très vite, en fait, dans le regard de ses parents, dans l'attitude de ses parents vis-à-vis des livres et de la lecture. Moi, je comprenais très bien, ayant grandi en région parisienne, chez mes parents, dans un pavillon de la banlieue parisienne, que voilà, que le livre était quelque chose d'important, que le livre pouvait être une source de joie. Aussi, pour ma mère, c'était souvent le temps qu'elle s'offrait, en fait. C'était un temps pour elle, voilà, le temps qu'elle ne donnait pas à sa vie professionnelle d'infirmière ou qu'elle ne nous donnait pas à nous, ses enfants. Ben voilà, c'était ce moment-là, c'était le moment de la lecture. Ce qui m'intriguait beaucoup chez elle, c'est qu'ensuite, elle était rarement capable de nous parler des livres qu'elle avait lus, voire même des livres qu'elle avait aimés. Il lui arrivait de relire pendant 30 pages un livre avant de comprendre qu'elle l'avait déjà lu. Et donc, ça m'intriguait beaucoup parce que je me disais, tiens, c'est étonnant parce que ce moment de la lecture qui l'absorbe beaucoup, en même temps, n'est pas obligatoirement quelque chose qui va laisser en elle une trace incroyable. Donc, en fait, c'est peut-être un moment qui lui permettait de s'enfoncer dans des rêveries très personnelles qui n'étaient peut-être pas directement en rapport avec les livres.
Vous avez dit qu'elle vous lisait des livres. Est-ce que vous avez des souvenirs de quel genre de livre?
Ce qui est intriguant, c'est que voilà, elle nous a un jour parlé d'un livre qui s'appelait La Vache à Pauline, qui était un album pour les enfants. Et elle nous a expliqué que pendant au moins 2 ans, on lui a demandé systématiquement ce livre-là, alors que je n'en ai aucun souvenir.
Et comme donc quoi,
voilà, mais en même temps cette absence de souvenir elle est assez magnifique aussi parce que donc ce livre a été apparemment pour nous source de fascination, peut-être de joie. On a l'impression, puisque je n'en ai aucun souvenir, qu'il a pas laissé de traces, alors que c'est obligé, en fait il a façonné quelque chose de notre sensibilité à mes frères et à moi. Et donc la littérature, manifestement, et ça je crois que je l'ai compris vraiment très tôt, la littérature parle à une partie de nous avec laquelle on n'est pas nous-mêmes en dialogue, en fait, c'est-à-dire que ça se dépose en nous mais on ne sait pas où, et ensuite on passe peut-être le reste de sa vie, notamment en écrivant des livres, à essayer de se reconnecter à cette partie-là.
Est-ce que vous avez le souvenir, peut-être quelques années après, des premières lectures que vous avez fait seule cette fois-ci, pas des livres qu'on vous a lus, et qui ont imprimé en vous de manière si forte que peut-être par la suite l'idée s'est formée de écrire à votre tour?
Ah oui, ça c'est des souvenirs vraiment très forts. Ça, tout se tourne autour, pour moi, l'année de quatrième au collège va être décisive, à la fois parce que je vais commencer à lire des livres par moi-même, sans qu'on me les ait recommandés, et puis en même temps parce que j'ai eu cette année-là un professeur de français qui nous a beaucoup brusqués en nous faisant lire énormément, et notamment la littérature américaine des années 50. Et si je peux raconter rapidement une anecdote, il nous a fait lire notamment les 9 nouvelles de Salinger, auxquelles on n'a absolument rien compris, parce que quand on a 12-13 ans, je pense qu'on n'est pas armé pour comprendre la mélancolie des personnages de Salinger, qui sont des adultes paumés dans le monde des adultes et qui continuent de rêver après le monde de l'enfance. Mais nous, quand on est en train de sortir de l'enfance, on voit pas bien ce que le monde de l'enfance peut avoir de fascinant. Je le lis donc en quatrième, je n'y comprends strictement rien. Je comprends même pas les titres des nouvelles, hein, puisque une des nouvelles, c'est Un jour rêvé pour le poisson banane. Bon, pareil, quand on a 13 ans.
Mais qui est un merveilleux titre.
Oui, oui, cependant. Un titre absolument extraordinaire que aujourd'hui adulte, j'aimerais bien trouver tout seul. Et en première, donc seulement 3 ans après, à la faveur d'un déménagement, je réouvre le livre et je réalise que l'ensemble des nouvelles s'est intégralement déposé en moi. C'est-à-dire que l'instant d'avant, j'aurais pas été capable d'en parler, mais les relisant, je me rends compte que je me souviens d'absolument tout. Et que pareil, ça a été déposé quelque part en moi, mais je ne sais pas où. Ça veut dire aussi que cette mélancolie sur laquelle, à ce moment-là, j'ai absolument pas prise, hein, je pense que je ne suis même pas capable de définir ce que c'est que la mélancolie lorsque je suis en quatrième et peut-être même pas quand je suis en première. Mais voilà, manifestement, si ça m'a parlé à ce point, c'est que c'est bien en moi cet aspect-là aussi, des choses, la mélancolie, et que la littérature a réussi à se connecter à ma part mélancolique sans que moi j'arrive à me connecter à elle.
C'est intéressant cette idée que c'est important dans une vie de lecteur, c'est une idée qu'on entend parfois, souvent, dans la bouche des écrivains, que c'est important de lire des livres auxquels on ne comprend rien quand on est jeune. Et c'est comme si voilà, un parcours de lecteur ou de lectrice après, ça pouvait être aller sur la trace de cette incompréhension.
Exactement, première. Mais moi, il m'arrive des fois de rencontrer des jeunes lecteurs, par exemple en collège, qui me disent « Mais est-ce que votre livre, il est pour moi ?» Je dis « Mais bien sûr, il n'y a aucun problème, en fait. » Et cette expérience, je l'ai aussi fait par moi-même, c'est-à-dire hors du cadre scolaire. La même année, j'ai lu « La nausée » de Sartre. Évidemment que je n'ai absolument rien compris au contenu philosophique, mais en revanche, j'ai été fasciné par le climat un peu étrange de ce roman, qui est pas pareil, qui est pas du tout un climat pour ados, qui est pas du tout un climat pour enfants, mais ça a été le début d'une fascination absolue pour l'œuvre de Sartre et puis pour la littérature aussi en général. J'ai tout de suite voulu être moi-même à l'origine de climats semblables à celui-là, quoi. Donc et en n'ayant rien compris au livre. Donc oui, c'est absolument, c'est magnifique en fait. Ça c'est un ouvroir à questions dans la tête dans un moment de la vie, l'adolescence, où justement on est déjà embarrassé de questions, et donc des questions supplémentaires qui sont peut-être mieux formulées que celles qu'on se pose à soi-même, c'est un vrai bonheur. Oui, ça nous aide à en sortir.
Alors là, on était donc au collège, au lycée, vous lisez, vous relisez Salinger, Sartre. Est-ce que si on avance un peu encore dans le temps, il y a comme ça d'autres grands chocs de lecture à Arnaud Bertina?
Oui. Par exemple, donc bien plus tard, je pense que j'ai 20 ans, 21 ans, quand je suis libraire le soir, en même temps qu'étudiant à l'université, un de mes collègues à la librairie me fait découvrir un livre de François Bon qui venait de paraître, qui s'appelle Prison, aux éditions Verdier. Et ça, c'est un immense choc. Bon, pour des raisons qui sont un peu longues à expliquer, mais c'est un choc parce que je suis sidéré par la langue de François Bon, mais c'est aussi un choc parce qu'il réconcilie deux questions d'écriture, c'est-à-dire soit d'un côté être en prise avec le réel, soit au contraire travailler tellement des formes littéraires que ça en devient presque abstrait. Et là, dans François Bon, en fait, il y a les deux aspects, quoi. Il y a le travail incroyable sur le texte, et en fait, c'est ce travail qui nous donne le monde, qui fait que la littérature reste en prise sur le monde, et le monde le plus étrange, c'est-à-dire celui de la marginalité urbaine, celui de la marginalité sociale chez François Bon. Donc c'est un choc incroyable et c'est un choc qui me donne immédiatement la possibilité d'écrire.
C'est un roman qui raconte quoi?
Alors c'est pas vraiment une fiction. En fait, il s'agit plus d'un récit. François Bon rapporte ses expériences d'atelier d'écriture, notamment du côté de Bordeaux, en prison. Voilà, il tourne autour des vies de ces détenus qui se confient à lui par l'écriture. Et voilà, c'est ces deux aspects-là. Encore une fois, le travail très travaillé de la phrase qui réussit à faire sonner le français d'une manière absolument inouïe et l'ancrage pourtant dans le siècle, l'ancrage dans la réalité la plus rugueuse. Voilà, ça a été pour moi un encouragement considérable à écrire.
Est-ce que la découverte de la littérature dont vous êtes le contemporain, ça a joué dans ce qu'on pourrait décrire comme une bascule, je ne sais pas, dans l'idée de passer vous-même à l'écriture? Est-ce que c'était important de lire des auteurs de votre temps?
Absolument, absolument. Alors là, je viens de le dire avec François Bon, puisque pour le coup, c'est le cas, même si c'est un aîné, je suis le contemporain de cet homme-là. Mais aussi, ensuite, quand mon premier livre a été publié en 2001, ensuite, j'ai effectivement, à la faveur de rencontres, de tables rondes, de débats, je me retrouve à devoir lire mes contemporains, les lire mieux, plus. Et en fait, vous savez, le grand bonheur que ça a été, ça, je vais le dire de manière un peu naïve, ça a été de constater que je n'étais pas seul au monde, c'est-à-dire que ce qui me semblait être, pour le coup, la trace de ma singularité. Je vous donne un exemple, le fait d'avoir le désir de lire mes propres textes assez vite. Les lire à haute voix, de manière assez rapide. Je pensais que c'était ma marque, je pensais que ça attestait ma singularité, puis je me suis rendu compte que, par exemple, Maïlys de Carangal lisait tout aussi vite ses propres textes. Et au lieu d'être d'avoir un effet déceptif, en fait, j'ai trouvé ça très excitant. Je me suis dit, ah tiens, donc c'est la trace de l'époque. C'est la trace d'une définition commune ou d'une idée commune qu'on se fait de la littérature, donc qui serait une littérature pleine d'énergie, pleine d'envie, pleine de...
Vous voulez dire qu'il faut que le texte puisse être lu vite dans son rythme propre, dans le rythme propre de la phrase, c'est
exactement,
ça.
Exactement, oui. Et que le fait de le lire vite dit quelque chose du livre. Et ça dit peut-être, voilà, le désir, l'énergie qu'on y met, la littérature comme une chose un peu affolante, quoi. Et voilà, de constater que mes contemporains partageaient ça, au lieu de me sentir dépossédé de quelque chose qui m'appartiendrait, au contraire, je me disais, tiens, c'est par ce biais-là que peut-être j'appartiens à mon époque. Et donc, oui, on apprend beaucoup à lire les autres, à écouter les autres, on apprend beaucoup sur son propre travail.
Vous citez Maïlys de Carangal, elle a fait partie, comme vous et d'autres, Olivier Roeux, bien d'autres, de cette aventure qu'a été la revue, les éditions Incultes. Est-ce que ça veut dire aussi, cette aventure-là, que la lecture, ça a été quelque chose qui se partage dans votre vie, aussi bien sous forme de conseils de lecture, voilà, d'échanges, de recommandations, que de discussions et d'écriture sur les livres aussi autres? Est-ce que c'est important, ça?
Ah oui, ça a été l'expérience de la revue Inculte qui a duré de 2004 à 2011. Ça a été une sorte d'accélérateur de particules incroyable pour nous tous. En fait, on se voyait tellement, on travaillait tellement ensemble, on échangeait nos lectures, que ce soit en littérature ou en philo, que moi, ça a été une deuxième école en accéléré. Écrire, c'est déjà une sorte d'école. On apprend déjà beaucoup en écrivant, mais là, de les fréquenter et de travailler avec eux au sommaire des revues, ça a été d'une richesse dingue. Mais je dirais presque plus encore que les lectures de cette époque-là, je dirais que c'est le fait d'écrire ensemble, puisqu'on composait les numéros de la revue ensemble, on participait presque tous tout le temps à tous les dossiers, on a écrit des textes de manière collective, c'est-à-dire sans signer chaque paragraphe, etc. Et ça, cette expérience-là de mêler nos voix, ça a été une expérience infiniment heureuse.
Vous parliez tout à l'heure du fait que votre mère, elle avait des lectures qu'elle aimait beaucoup, qui étaient très importantes dans sa vie, mais elle ne savait pas en parler, ou elle oubliait même qu'elle avait lu des livres. Vous avez aussi pratiqué cette chose qui est de discuter des livres des autres, écrire éventuellement sur les livres des autres. Est-ce que ça change la manière dont on lit, le fait de travailler aussi à penser ce qu'est la littérature?
Ah oui, alors ça, oui, pour certains livres, par exemple, vous sortez d'un livre en étant très enthousiaste ou au contraire très très agacé. Si vous avez le besoin d'en parler aux autres, vous pouvez pas en rester à cette impression-là, il faut la prouver, il faut expliquer pourquoi le livre est enthousiasmant ou pourquoi au contraire il vous semble raté. Et d'aller chercher ces arguments-là, c'est un effort sur soi, quoi. On préférerait rester tranquille et passer à un autre bouquin. Mais en fait, cet effort sur soi, il est toujours bénéfique. J'ai toujours ressenti une espèce de joie et d'électricité à trouver les arguments pour expliquer pourquoi ce livre-là me semblait raté ou au contraire excessivement enthousiasmant.
Oui. Est-ce qu'il y avait des lectures pendant l'écriture du livre dont on va parler maintenant, des obus, des fraises et des prothèses? Est-ce que c'est un livre que vous avez aussi écrit avec des références en tête ou avec des, très concrètement, des livres posés près de votre bureau qui étaient comme comme, je sais pas, des petits phares dans la nuit de l'écriture.
Oui, c'est exact. J'aime bien l'idée des phares parce que c'est un petit peu ça. Des fois, on a besoin d'être entouré de livres qu'on va peut-être pas réouvrir, mais on a besoin de savoir qu'ils sont là, on a besoin de les voir, parce qu'ils émettent d'une manière presque comme des choses phosphorescentes. Comme une... Oui, il y en a eu. Alors après, vous savez, moi, presque tous les livres, c'est toujours 4 ou 5 ans de travail, donc même pendant les 4 ou 5 ans, les livres passent, viennent. Mais il y a quelques références qui sont à l'horizon. Par exemple, je peux dire que pour le dernier personnage de Hassen, dans l'interrogatoire de police, je cherchais à capter la gouaille de certains personnages qu'on trouve dans l'œuvre d'Albert Kosri, par exemple, cet écrivain égyptien qui, d'origine égyptienne qui vivait à Paris, qui a écrit peu de livres, mais qui sont des livres merveilleux, justement.
Et réédité, je crois, il n'y a pas si longtemps.
Oui, très souvent, Joël Losfeld reste très fidèle à l'œuvre de Kosri, donc elle le réédite dès qu'il y a besoin. Et j'avais ça par exemple en tête. Mais sinon, ça peut être aussi des livres qui, a priori, n'auraient pas de rapport direct, mais dont j'ambitionnerais la folie ou la beauté. Et donc là, ça peut être ma bibliothèque personnelle, sans rapport avec le sujet de ce roman-là. Mais ça peut être, par exemple, Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, qui pour beaucoup, beaucoup de monde, est un phare, justement, et qui est une sorte de ligne à l'horizon, quoi, qu'on a envie d'essayer de rejoindre, tellement il y a tout dans ce livre, aussi bien en termes de détresse que de merveille, d'humour et de beauté.
On va aller vers la folie de votre livre à vous, Arnaud Bertina. Et pour nous y conduire, je vous propose qu'on écoute cette chanson de la chanteuse Ise. Elle s'appelle Corps.
Le corps nu sur le sol. Je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y a pas de place pour les fables. Y a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol. Relève-toi, faut pas déconner. Dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Par où commencer ? D'un côté de la piscine, il y a les hommes diminués, de l'autre, les femmes augmentées. Dès que je m'arrête une seconde pour souffler entre deux chambres, c'est l'image de la piscine qui s'impose à moi. À droite, les hommes auxquels il manque des bras, des jambes, leurs choses, et à gauche, des femmes truffées d'implants et de prothèses en silicone. Au milieu, cette piscine, pour personne, ni les hommes diminués, ni les femmes augmentées. Ainsi parle Rafika, la femme de chambre par la voix de laquelle s'ouvre votre dernier roman, Arnaud Bertina. C'est avec elle que nous pénétrons dans ce lieu qui en est la scène principale, un palace tunisien déserté qui accueille des hommes mutilés par la guerre libyenne voisine et des femmes couvertes des pansements de la chirurgie esthétique. C'est un récit choral, la succession de quatre monologues intérieurs ou adressés, celui de Rafika donc, jeune veuve qui complète son maigre salaire d'institutrice en veillant sur les blessés, de Majed, un médecin qui a perdu perdu une jambe et une main dans le bombardement d'un hôpital à Tripoli, de Naïma, qui a voulu passer sous le bistouri pour se libérer d'une trop grande beauté, et de Hassen, enfin, un jeune homme venu de Sidi Bouzid qui tente d'échapper à la misère en travaillant comme groom. Un concentré d'humanité blessée, petit théâtre à la fois grotesque et tragique, où la chair n'est pas triste, malgré la violence qui partout gronde. On vous retrouve, Arnaud Bertina, pour parler de ce livre, Des obus, des fesses et des prothèses. C'est son titre, il a paru aux éditions Verticales. C'est donc comme ça que ça commence, par la description de ce lieu, ce palace de la Marsa, juste à côté de Tunis, où cohabitent ces hommes mutilés par la guerre voisine et ces femmes tout nouvellement augmentées, comme le dit Rafika, qui parfois bavardent au bord de cette piscine où personne ne se baigne. On est d'emblée frappé par la force de ce décor, qui est un peu comme une scène de théâtre, m'a-t-il semblé, ou peut-être aussi comme une installation en art contemporain. Comment est-ce qu'elle vous est venue, cette scène si étrange et si impressionnante, assez immédiatement pour nous, lecteurs, qui la découvrons ?
Alors, elle ne m'est pas venue de mon esprit détraqué. Hein,
Ça pourrait,
mais c'est pas le cas. C'est un ami en 2019 qui, cinq ans plus tôt, avait un déjeuner de prévu dans un de ses palaces sur la côte au nord de Tunis et qui a vu ça. En fait, traversant la grande terrasse qui donnait sur la mer, il a vu que la piscine n'était utilisée par personne, alors qu'au bord de la piscine, il y avait d'un côté ces hommes amputés et de l'autre côté ces femmes attendant que les hématomes disparaissent. Et c'est, voilà, en 2019, il me dit juste ça, et instantanément, vraiment comme dans un coup de foudre amoureux, instantanément, je sais que je veux écrire sur ce sujet-là. Parce que il y a ce, j'entends tout de suite ce mélange de tonalités entre grotesque et tragique, et que c'est une des choses qui me passionne le plus dans l'écriture, c'est de tourner autour de la complexité des choses que l'on vit, de la complexité de nos émotions, de nos identités, de montrer que voilà, une scène peut être à la fois très drôle et puis basculer immédiatement dans quelque chose de très tendu, de très poignant, ou au contraire quelque chose de très dur peut déboucher tout de suite en un claquement de doigts sur une scène au contraire vraiment très drôle. Donc je savais que c'était pour moi. Je lui ai proposé de l'argent pour qu'il n'en parle plus à personne. Et le soir même, en rentrant en métro, j'étais déjà en train de prendre des notes.
Je vous propose qu'on écoute la question de Bertrand, qui est un auditeur qui vous a lu et voulait vous adresser aussi une question précisément sur ce lieu-là.
Bonjour le Book Club, bonjour Arnaud Bertina. J'ai lu le livre Des obus, des fesses et des prothèses et je tenais à vous dire que j'avais vraiment beaucoup aimé ce titre. J'ai aimé la façon dont vous avez construit ce livre, ces quatre narrateurs qui sont tous à la fois attirés par le palace, par la vie du palace, tout en voulant s'en extraire. Et je me demandais si finalement ce palace n'était pas le personnage principal de votre livre. Mmh. Merci de votre réponse.
Merci à vous Bertrand pour cette question. Le palace, personnage principal du livre, est-ce que c'est juste de le dire comme ça ? Est-ce que vous l'avez travaillé comme un personnage, Arnaud Bertina ?
Bonjour Bertrand. Alors oui, mais tardivement dans l'écriture du livre. C'est-à-dire que pendant longtemps, pendant peut-être les trois premières années, j'étais beaucoup concentré sur les personnages. Et puis c'est en faisant lire un premier état du roman à un ami, Julien Campagny, qui est par ailleurs aussi comédien. Je lui donne le manuscrit et puis quand ensuite il me fait son retour de lecture, je lui demande quelle image te reste du livre. Est-ce qu'il y a une image qui t'a semblé plus forte que les autres et qui te reste ? Et en fait, un peu déconcerté par ma question, il m'a répondu « bah l'hôtel ». Et en fait, cette réponse si simple m'a amené à mieux comprendre en fait quel était le vrai centre de gravité de mon livre en fait. Et que donc oui, évidemment, l'hôtel est le premier personnage ou le cinquième personnage. Il est, si on fait bien attention, il est décrit comme une sorte de corps vivant lui aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les couloirs peuvent être décrits à certains moments comme les veines ou les artères d'un grand corps qui serait vivant et qui broie ou qui inquiète en tout cas les gens qui l'habitent. Et à partir de ce moment-là, comme Bertrand le dit dans sa question, effectivement, m'est apparu beaucoup plus clairement que l'enjeu pour trois des quatre personnages, c'était de fuir ce lieu qui était beaucoup trop morbide, alors que le quatrième personnage, Rafika peut-être, elle comprend l'inverse, c'est-à-dire qu'elle comprend, étant donné qui elle est, étant donné ce qu'elle est, qu'elle a quelque chose à vivre à cet endroit-là, pour peut-être se débarrasser de certaines inhibitions, etc. Et que, donc voilà, le même lieu peut amener des recettes différentes pour chacun des personnages, mais oui, tout à fait, l'hôtel est le premier ou le cinquième personnage.
C'est vrai que la topographie pardon du lieu est très précise pour nous lecteurs qui le découvrons, c'est-à-dire qu'on se en effet on referme le livre, on se représente assez bien ces espaces, on garde ça en tête, la piscine d'un côté, mais la piscine qui parvient à l'un des personnages uniquement par les voies qui se déploient autour, les couloirs que parcourt Rafika qui elle va de chambre en chambre, les différentes chambres dans lesquelles l'un des autres personnages Naïma se promène, les chambres qu'elle va visiter elle aussi pour d'autres raisons. Vous avez dit j'ai travaillé d'abord les personnages puis ce lieu. Comment ça s'est passé un peu les étapes de la construction de tout ça? Est-ce que les quatre personnages qui constituent les quatre grandes parties du livre, deux hommes, deux femmes, sont venus assez vite après l'histoire, cette histoire initiale que cet ami vous avait racontée? Ou est-ce que ça aussi, il a fallu peu à peu les trouver, les inventer?
C'est peut-être venu assez vite. La scène, l'intrigue est peut-être venue assez vite. En revanche, ensuite, c'est plusieurs années, deux peut-être trois années de correction, de réécriture pour affiner, pour essayer d'être le plus juste possible, pour me dire Majid qui est allongé avec un bandeau sur les yeux, qu'est-ce qu'il est en mesure de comprendre, qu'est-ce qu'il est en mesure de savoir, puisqu'il n'a pas la vue. Naïma, quel est exactement son niveau de colère et son niveau de désir, est-ce qu'elle est complètement affranchie par rapport aux autres femmes qui sont dans l'hôtel ou est-ce qu'au contraire elle est un peu comme elle, etc. Donc oui, au départ j'ai cet homme allongé qui écoute ce qui se passe dans la chambre à côté et qui est de plus en plus fasciné par ce qui se passe à côté, par ce qu'il entend dans la chambre à côté. Ensuite il y a Naïma, et Naïma j'ai eu le sentiment de tout de suite qu'elle avait une vraie consistance à partir du moment où je lui ai donné la raison inverse de la chirurgie esthétique traditionnelle, c'est-à-dire qu'en général, on va vers la chirurgie esthétique ou la chirurgie réparatrice pour se sentir plus beau, plus aimable, déjà même à ses propres yeux. Et elle le fait pour des raisons complètement inverses, c'est-à-dire qu'elle trouve que sa beauté, que tout le monde vante, est d'une fadeur horrible. Et donc, elle a besoin, au contraire, de réintroduire du chaos dans ce visage ou dans ce corps. Et là, je me suis dit, là, je tiens mon personnage. J'ai plus qu'à dérouler ce fil-là. Et là, il y a quelque chose de très consistant. Et puis ensuite, le personnage du groom aussi, avec cette scène de l'interrogatoire de police que j'ai beaucoup retravaillé, mais qui est restée la même scène du début à la fin.
Le dernier personnage du livre, lui, on entend sa voix à travers le dialogue qu'il a avec des policiers qui l'interrogent pour des raisons qu'on ne va pas trop dévoiler, parce que c'est l'un des plaisirs de lecture aussi. Il y a toute une intrigue, évidemment, qui lie ces personnages entre eux. Je vous propose qu'on écoute un extrait du livre, précisément un extrait de la partie où on entend Majid, donc cet homme qui est blessé, qui était médecin et qui se retrouve dans cet endroit dont pour le début en tout cas, il comprend pas bien exactement où il est. On écoute.
Le monde par les oreilles. On peut fermer les yeux, bloquer sa respiration, se retenir de pisser, mais les oreilles, sauf à utiliser nos mains, du coton, de la cire. Blackout. Le monde par les bruits est... Quelqu'un toque, la poignée d'une porte, salam. Se rapproche de mon lit où... Je ne suis plus sur un brancard. Les oreilles, la peur. Infeulement, c'est angoissant. Voir surgir une bête hors du buisson qui la cachait, c'est presque rassurant. Les oreilles inquiètes, les yeux rassurent. J'ai sans doute perdu mes yeux. En tous les cas, je ne vois rien. Chuter sans fin. Blackout. Une érection me réveille. Je cherche mon sexe. Je ne l'atteins pas. Je le sens tendu, et ma main droite, elle... J'essaye de la frotter sur le drap. Aucune sensation. Contre mon torse, je sens mon avant-bras, mais rien que lui. Ma main droite, perdue. L'effet d'écalement diminue. Paupières, rideau de fer tombé. Avec la main qui me reste, comprendre pourquoi je n'y vois rien. L'envoyer tâtonner. En la déplaçant, j'entraîne quelque chose. Léger frottement. Ce bruit me renseigne. Un cathéter. Une poche est suspendue. Je suis perfusée, bien sûr.
Les doigts s'agrippent au visage, maladroit. Ils m'apprennent que ma tête est bandée, tout le crâne, jusque sur le nez, douloureux. La bande Velpo tient aussi deux coques en plastique, contre mes yeux. Les auraient-ils protégés s'ils étaient foutus? Je vais revoir le monde? La tête mangée part, l'ombre a faim. Mon sexe qui sort du bois, téméraire, idiot.
Extrait de votre roman Arnaud Bertina, lu par Jeanne Aléos, le début de ce deuxième chapitre donc, qui s'intitule Majed, du nom de ce personnage dans les pensées et dans les perceptions desquelles on est tout au long de ce chapitre, avec cette très belle idée que le monde ne lui parvient plus que par les oreilles, puisqu'il a des coques qui protègent ses yeux en raison des opérations, en raison de ses blessures. Et cette idée qu'il développe aussi que les oreilles, on peut rien faire, même avec des boules-caisses, on ne peut pas empêcher le monde de rentrer par là. Est-ce que ça, l'idée que vous aviez envie de travailler dans cette perception auditive-là, elle est venue tout de suite et qu'est-ce qu'elle vous permettait de travailler ?
Oui, elle a dû me venir tout de suite, je pense, oui. Ce qu'elle permettait, c'était d'essayer d'être... quand on dispose des cinq sens, on les utilise qu'à moitié tous parce qu'on peut compenser avec les autres, c'est-à-dire ce qu'on entend mal, ben on a les yeux pour nous renseigner, et ce qu'on voit mal, et ben on a les oreilles pour nous renseigner. Donc on ne pousse jamais les choses au maximum. Il y a que les personnes qui justement n'ont plus la vue ou n'ont plus l'ouïe, qui elles savent justement utiliser au maximum ce qui leur reste. Et donc j'avais envie de cette intensité-là. J'avais envie d'essayer de faire que le personnage et le texte concernant ce personnage est cette intensité là quand on pousse ce qui nous reste de nos ressources, quand on les exploite au maximum, quand on devient tout d'un coup ultra attentif aux variations de la voix de l'infirmière qui vient pour vous soigner par exemple, ou quand on arrive à entendre les bruits au bord de la piscine et que captant une conversation entre deux femmes au bord de la piscine, et ben il arrive à entendre toutes les nuances, il arrive à deviner des sourires qui pourtant ne font pas de bruit, etc. Voilà, j'avais envie de ça parce qu'il me semble que l'écriture, c'est quelque chose d'éminemment physique, c'est quelque chose qui est vraiment très lié au corps, qui est très lié à la musique, et il y a une propension de l'écriture à faire lever un désir pour le monde qui est à chaque fois le pari consolance, quoi. C'est-à-dire d'essayer de faire que... moi, le grand fantasme, c'est que quelqu'un lisant une de mes pages ait tout de suite envie de vivre la chose ou de vivre cette situation-là, de se dire, bon sang, même une page dure comme celle-ci, c'est-à-dire de cet homme qui reprend contact avec son propre corps et qui ne le reconnaît pas du tout, le pari de l'écriture, c'est de dire, ben, même ça, je vais arriver à le rendre aimable, en fait. Les livres les plus désespérés ou les plus noirs, on en sort toujours hyper enthousiaste. Prenez Voyage au bout de la nuit, qui est vraiment un des livres les plus désespérés qu'on ait pu écrire, mais en fait, on en sort avec une énergie incroyable. C'est très paradoxal. Il y a ça qui est dit dans la flûte enchantée de Mozart, hein, disant que la flûte, elle est enchantée. Pourquoi ? Parce qu'elle est capable, par la musique, de transformer complètement les émotions humaines et qu'à partir d'une grande tristesse, on va produire beaucoup de joie. C'est dans le livret de l'opéra. Pour la littérature, pour moi, c'est le même enjeu, en fait. C'est d'essayer en essayant de capter la même acuité, d'être au plus près de ce qu'un corps peut, de ce qu'une situation peut, d'être capable de redonner envie du monde aux lecteurs et aux lectrices qui auraient perdu cette envie-là, par exemple.
Oui, en effet, il y a une énergie qui passe du livre à nous, et cette énergie, c'est l'énergie de la langue. Ce qui m'a beaucoup impressionnée et intéressée dans la construction du livre, dans son écriture, c'est la variété, la dynamique des différents registres d'écriture qui sont ceux de chacun de ces personnages au sein même de chaque chapitre. C'est-à-dire que chaque chapitre pourrait presque se lire comme un petit livre en soi, comme un petit récit en soi, qu'on détacherait des autres, mais au sein de chacun, on passe par toute une gamme de registres de paroles. Je dis paroles parce qu'on a l'impression que les personnages prennent la parole. Par exemple, pour Majid, on est d'abord dans l'acuité de ses perceptions que vous décriviez très bien, et puis on va peu à peu aller vers quelque chose qui s'approche d'une sorte de délire parce que la fièvre le gagne et on comprend que voilà, les perceptions qui lui parviennent sont prises dans cette fièvre-là, dans tous les sens du mot. Pourquoi c'était important pour vous, cette variété de registres-là? Si on parle du personnage de Naïma, c'est très impressionnant aussi. Son chapitre est comme une longue adresse au médecin chirurgien qui l'a opéré, mais au sein même de cette adresse se glissent des extraits d'une lettre au père qu'elle adresse à la façon de Kafka, et puis des fragments retrouvés de cette adresse. Enfin voilà, c'est très très plein de choses à l'intérieur de chaque chapitre.
Oui, c'est exactement ça. Merci de m'avoir lu aussi précisément. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que la parole humaine, en fait, peut-être. Et cette parole-là, curieusement, à la fois je la cherchais dans la fiction, mais je l'ai aussi rencontrée en écrivant les deux récits documentaires qui ont été publiés par Vertical en 2020 et 2021 sur le Congo et sur la Creuse, où je donnais beaucoup la parole aux gens que j'avais rencontrés. J'ai à ce moment-là encore mieux compris à quel point le témoignage d'une personne recèle des trésors. Et donc cette attention à la parole humaine, j'ai voulu la rebasculer aussi dans la fiction, c'est-à-dire en donnant aux quatre personnages un statut différent. Donc il y a celle qui répond à des questions, il y a Majid qui tient son journal sur un dictaphone, il y a Naïma qui écrit, comme vous l'avez dit, à son chirurgien, il y a Hassan qui répond aux flics. À chaque fois la parole, elle est de nature différente, mais donc résultat aussi, les personnages sortent des choses différentes. Hassan, qui est interrogé par un flic, s'il était en train de tenir son journal, il dirait tout autre chose. J'essaye d'être le plus attentif possible à la qualité de la parole des personnages ou des personnes que je rencontre, que ce soit donc dans la fiction ou dans le récit documentaire. C'est vraiment ce que je trouve magnifique.
Mais justement, vous faites allusion à ces deux récits documentaires qui s'appellent L'âge de la première passe et Ceux qui trop supportent. Je me demandais, en vous lisant, tout de même, ça doit être un peu différent dans l'expérience, dans le travail d'écriture, que d'avoir en tête, quand on écrit, des personnes réelles qu'on a rencontrées, et avec la mélodie peut-être aussi de leurs paroles qu'on a encore dans l'oreille, et de devoir partir du rien, du néant. Comment vous travaillez lorsque ces personnages y naissent de votre pure imagination ?
Vous avez raison, c'est à la fois très différent et en même temps, il y a aussi beaucoup de passerelles. Et j'ai été très surpris de découvrir ça au fil des années. Et ces passerelles, en fait, elles sont assez simples à formuler. De la même manière que quelqu'un qui s'est confié à moi en Creuse ou au Congo, je ne dois surtout pas l'abîmer et le caricaturer quand je vais parler de lui dans le livre. De la même manière, quand j'invente un personnage, je ne dois pas le caricaturer. Si mes personnages semblent caricaturaux, ce ne sont pas les personnages qui vont me faire un procès, mais ça pourrait être les lecteurs du livre qui vont me reprocher d'avoir fait des personnages caricaturaux. Donc en fait, dans les deux cas, l'éthique d'écriture, elle est la même. C'est d'essayer de rendre au mieux la complexité des personnes, et peut-être, en tout cas dans mon cas, d'essayer de rendre la beauté de ces personnes-là.
Vous disiez que c'est un livre dans lequel le corps s'exprime aussi à travers la voix de ces personnages. Je vous propose qu'on écoute une archive dans laquelle on entend l'écrivain luxembourgeois Lambert Schlechter parler de ce que c'est précisément que l'écriture du corps.
Je trouve que sur les choses du corps, tout n'a pas encore été dit. En fait, c'est quand même assez rare. Même des hommes qui parlent des choses du corps, ça c'est des échos que j'ai fréquemment, autant de femmes que d'hommes, qui me disent « Ah tiens, les choses que tu dis, on ne les a pas encore entendues de cette manière. » Et ça, c'est une sorte de récompense, je dois dire, parce que je ne vais pas chercher ça, mais c'est un besoin pour moi de l'exprimer. Beaucoup de gens ne l'ont pas, beaucoup d'auteurs ne l'ont pas non plus. C'est-à-dire, je respectais ça, qu'on ait une sorte de pudeur. Mais pour moi, c'est pas une pudeur. Pour moi, c'est mieux connaître à la fois l'âme et le corps que de mettre ces choses-là en langage. J'en ai besoin parce que j'ai un peu l'impression qu'en n'en parlant pas, ça n'a pas vraiment existé. Je me souviens que ma grand-mère disait, il y a assez longtemps, ces choses-là se font, mais on n'en parle pas. Alors que pour moi, les deux vont ensemble. Je crois que... Pourquoi est-ce qu'on peut célébrer un crépuscule et on ne peut pas célébrer la beauté d'une vulve. Mmh. Ça, je ne comprends pas. Et comme homme de langage, comme poète et comme écrivain, j'ai envie de célébrer cela aussi.
L'écrivain Lambert Schlechter, dans une archive de 2013, il était au micro d'Alain Weinstein dans l'émission Du jour au lendemain. Mettre ces choses-là en langage, célébrer la beauté d'une vulve. Alors dans votre livre à vous, Arnaud Bertina, c'est pas tant la beauté des vulves qui est célébrée. D'ailleurs, je sais pas s'il s'agit tant de beauté, en l'occurrence, mais l'idée de mettre ces choses-là, et il faudrait déplier un peu qu'est-ce qu'on met derrière cette expression, ces choses-là. Ces choses-là en langage, elle est très présente dans le livre, dans lequel c'est le désir, au fond, qui est très, très, très vif. Est-ce que c'est quelque chose qui vous animait aussi dans l'écriture du roman ?
Oui, tout à fait, mais peut-être pas tant le désir sexuel, encore que, là, dans le livre, ça prend souvent cette forme-là, mais que le désir de vie, en fait, oui, le désir de rester en vie. En fait, ce que je décris chez ces quatre personnages, c'est comment la vie s'accroche, comment la vie ne renonce pas. Et donc, c'est un désir vraiment, oui, de vie, c'est leur vitalité qui s'exprime, alors même que certains de ces personnages pensent que cette vitalité les a fui, pensent qu'elle est plus pour eux, pensent que... Tourner autour de la détresse des personnages, tourner autour de leur énergie de vie qui s'obstine. Oui, bien sûr, mais je pense que peut-être que cette intention-là, elle est dans toute la littérature, en fait. Peut-être que tous les livres ne font que tourner autour de l'énergie de vie des personnages et de leur désir de rester pleinement vivant.
Le livre, il est fait de toute une série de contrastes. D'abord, les personnages m'a frappé le fait qu'ils étaient... qui représentaient eux-mêmes des formes différentes d'humanité, si on peut dire. Tout simplement, il y a deux hommes et deux femmes, et ils ne cessent d'être question, d'une certaine manière, du gouffre qui reste quand même entre ces deux parties de l'espèce humaine. Et puis, c'est aussi deux personnes issues des parties les plus modestes de la société tunisienne, en l'occurrence, et puis un médecin, une femme dont on comprend qu'ils sont issus de classes plus aisées. Tout simplement. Enfin voilà, il y a beaucoup de contrastes de cet ordre qui résonnent, qui font écho aussi avec le contraste entre, vous le disiez tout à l'heure, le grotesque et le tragique, et peut-être même aussi l'humour et le lyrisme, l'amour et le désir plus trivial. Enfin voilà, c'est des comme ça lignes de fuite qui sont dans le livre. Comment est-ce que ça vous a animé ça ou travaillé dans l'écriture du livre ?
J'ai envie de dire que dans ce que je cherche dans l'écriture, je suis pas du côté de l'esthétique classique, je suis plutôt du côté de la recherche d'une espèce d'abondance, de débordement, peut-être quelque chose de plus baroque, et que cette veine baroque, cette pente baroque m'amène à vouloir tout mettre dans un livre, toutes les questions sociales possibles, toutes les questions amoureuses possibles, toutes les questions sexuelles possibles. Voilà, j'ai un côté... non pas gourmet, mais goinfre. Et en fait, pour moi, la littérature, elle répond beaucoup à ce désir goinfre. J'ai le sentiment, quand je termine de lire un grand livre, j'ai le sentiment d'avoir vécu 17 vies. Et voilà, c'est ça que je cherche ensuite quand je me mets sur un nouveau livre. Tous les aspects de la vie m'intéressent, aussi bien la question sociale que vous venez de décrire. Mais voyez, par exemple, je ne suis pas passé par un tableau Excel. Je ne me suis pas dit, bon, il me faudrait deux pauvres et puis deux grands bourgeois. Mais il se trouve que c'est comme ça parce que cette question-là aussi m'intéresse. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai posé la question du rétablissement, la question du souci esthétique, de la chirurgie réparatrice, évidemment que je vois apparaître aussi une autre question qui est la question sociale. Qui a accès à ce type de soins ? Qui a accès à ce type de réconciliation avec soi-même, etc. Et puis qui travaillent dans ces lieux-là. Et évidemment, les gens qui travaillent dans ces lieux-là ont une vie tellement différente. Et donc, j'ai du mal, moi, à me concentrer simplement sur une seule question. J'ai du mal à faire un livre uniquement sur un blessé de la guerre ou uniquement sur la chirurgie esthétique. Je vois tout de suite apparaître à l'horizon des ombres qui passent et j'ai tout de suite envie de les faire rentrer dans le cadre.
Et malgré ça, malgré cette impression que le monde entier, d'une d'une certaine manière se déploie comme ça sous nos yeux dans le roman. Il y a aussi, parmi les plaisirs de lecteur qu'on éprouve, la description, les descriptions de cette partie du monde très précise qui est la Tunisie, à la frontière de la Libye, et en l'occurrence au moment de cette seconde guerre civile libyenne dont on parle, on n'a pas tant parler que ça, ici, avec, dans la partie sur le personnage de Majid, notamment des descriptions assez précises de cette guerre-là. Est-ce que pour cet aspect-là, pour cette dimension-là, vous vous êtes documenté particulièrement? Et est-ce qu'il y avait quelque chose aussi dans cet endroit du monde-là et ce moment historique-là qui vous intéressait particulièrement, Arnaud Bertina?
Alors, je dirais que non. Alors, je me suis documenté pour essayer quand même de pas dire d'ânerie et de pas être dans des choses trop fausses. Mais par ailleurs, j'ai envie de déminer aussi un petit peu le terrain. Ça n'est pas un livre sur la Tunisie, ça n'est pas un livre sur la guerre en Libye, ça n'est pas un livre sur la chirurgie esthétique, parce que à chaque fois, ça supposerait des compétences que je n'ai pas, et ça supposerait ça poserait un peu la question de ma pertinence à moi qui n'ai jamais été opéré, etc., etc. Enfin, c'est des questions qui sont intéressantes, ces questions-là. Donc non, moi, j'ai pas voulu masquer complètement l'ancrage tunisien du livre, et puis même le moment historique entre 2012 et 2015. Mais pour autant, je n'ai pas voulu le faire vraiment complètement remonter à la surface. Comme cette histoire me venait de cet endroit-là, et que la question de la géographie de la chirurgie esthétique, elle est assez intéressante, puisque maintenant, ça s'est basculé beaucoup sur la Turquie. Bon, je me suis dit, je vais garder quand même l'ancrage un peu tunisien, mais d'une certaine manière, j'aurais pu aussi tout flouter et puis parler d'un hôtel quelque part dans le monde, j'aurais peut-être obtenu les mêmes effets, parce que ce qui m'intéresse fondamentalement là dans le livre, c'est vraiment de tourner autour de la détresse et de la vitalité de mes personnages, plus encore que de faire un point sur la géopolitique ou des choses sur lesquelles je ne suis pas compétent.
La vitalité de vos personnages, elle s'incarne notamment dans celui de Naïma, qu'on a commencé d'évoquer tout à l'heure. Je voudrais qu'on écoute sa voix si profondément singulière.
Pourquoi avoir fait ça? Pour les mêmes raisons que toi, Beaumerle? Un médecin lui a reconstitué la mâchoire qu'une balle a fracassée. Et cette mâchoire en titane, il l'a recouverte d'une langue de peau qu'il est allé prendre sur ses fesses. Mais ça n'a rien à voir, évidemment. C'est de la chirurgie réparatrice. Pour les mêmes raisons que toi, avec tes prothèses en titane, je m'accroche à la vie. Mais vous, les femmes, c'est lié au vieillissement. Vous avez un problème avec ça? Je ne réponds pas. Je n'exprime rien. J'attends la question d'après. Par exemple, qui suis-je pour oser modifier ce que le Créateur a dessiné? Comment peut-on modifier ce qu'a décidé Allah? J'y étais presque. Ah, je n'aurais pas dû? Je le défie en décrivant les décalages que je vous ai demandés, docteur. La fin de l'harmonie, l'accueil du désordre. Je lui raconte mon opération. Il regarde par la fenêtre, comme s'il allait tourner de l'œil. Je décris les cicatrices et comment ça brûle un peu. Il est estomaqué et ne sait plus que faire de cette conversation. À ce jeune homme, je n'en dis pas plus, alors que ça bouillonnait à l'intérieur, au point de m'adresser à lui encore quelques minutes plus tard, mentalement, alors que je rejoignais la terrasse et la piscine. Vous pensez que les hommes sont les seuls à vivre tragiquement? Les tapettes et les femmes, non? Parce que vous croyez que l'histoire, c'est des batailles, des coups de force et des cadavres? Mais mes prothèses pour les seins ou pour les fesses, c'est aussi l'histoire. Nos corps sont modelés par elle, bien plus nettement que ceux des hommes. Une femme qui va chez le chirurgien pour lui demander deux seins qui ressemblent à quelque chose, c'est toute l'histoire qui la viole encore une fois. Les batailles qu'on nous impose, être éternellement jeune, assumer ses cheveux blancs, avoir des cheveux pour les cacher, grâce pour dire la prospérité de la famille, ressembler à un mannequin anorexique, une tunique qui descende jusqu'aux babouches, parce que la tradition montrait ses genoux, parce que Pornhub, etc. Notre victoire, ne pas être devenue plus folle que ça. À notre place, vous seriez allé chouiner 50 fois devant le Conseil de sécurité de l'ONU,
avec vos petits cœurs fragiles et vos cerveaux incapables de faire deux choses.
C'est la voix de Naïma dans ce dialogue imaginaire, d'abord avec cet homme qui lui demande pourquoi diable elle a fait ça. Qu'est-ce qu'elle a fait, Naïma? Elle a décidé d'avoir recours à la chirurgie esthétique, vous le disiez tout à l'heure, Arnaud Bertina, pour s'enlaidir, pour échapper
à cette... Je ne dirais pas ça.
Alors, vous allez me corriger. En tout cas, pour changer quelque chose à cette grande beauté, qu'elle vit plutôt comme une punition, mais vous allez le dire dans vos termes. Et puis ensuite, ce développement que lui inspire cet échange et cette phrase « nos prothèses pour les seins ou pour les fesses », c'est aussi l'histoire qu'on a envie de mettre en exergue ou en éclairage en tout cas de tout le roman. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça et commencer alors par me corriger parce que est-ce qu'il n'était pas juste.
C'est pas vous corriger, mais le non, en fait, c'est pas tant un désir de laideur que elle se fait une autre idée de la beauté en fait et qu'elle trouve sa propre beauté, elle la trouve beaucoup trop fade. C'est la beauté d'une poupée de porcelaine avec un visage qui ne raconte rien et depuis l'adolescence, elle attend que son visage raconte quelque chose et pour elle, ça passe par l'accident, ça passe par le bizarre, ça passe par une forme de beauté inattendue.
Elle cite au chirurgien le visage de Forest Whitaker pour la paupière qui tombe.
Voilà, par exemple. Ouais. Et on dirait pas de Forest Whitaker qu'il est laid à cause de cette paupière qui tombe.
Non, certainement pas.
Mais, voilà. Mais effectivement, tout d'un coup, le visage retient l'attention parce qu'il y a quelque chose qui, à la fois, n'est pas courant et en même temps, on voit bien que la personne dégage quelque chose. Et donc, c'est ça qu'elle demande à la chirurgie esthétique. Elle lui demande pas de rentrer dans un canon précis. Les modes changent sans arrêt, les canons changent sans arrêt, donc ça rend les femmes et les hommes complètement fous. Ce qu'elle lui demande, c'est juste que, voilà, d'introduire une forme de disharmonie, d'introduire des décalages peut-être dans son visage, et de manière à ce qu'elle ait le sentiment d'être moins banale. C'est juste qu'elle a une autre idée de la beauté, une idée qui est plus liée à l'accident et au bizarre que plutôt un désir de s'abîmer. Pour elle, c'est pas du tout l'idée. Et à ce titre-là, elle dit quelque chose de mon désir d'écriture aussi, quoi, puisque on peut la prendre comme une sorte de métaphore. Mon roman n'est pas construit ou mes livres ne sont pas construits selon des normes d'équilibre, avec des parties qui seraient parfaitement ajointées les unes aux autres. Au contraire, il y a de l'ellipse, il y a du décalage, il y a des ruptures de ton. Et donc, ce que Naïma demande au chirurgien, c'est aussi ce que je demande à mon propre livre. Ou c'est peut-être ce que je demande aux livres des autres aussi, quoi. C'est une beauté qui surprend, une beauté qui nous désarçonne. Pendant très très longtemps, j'ai été très désarçonné par la beauté spéciale des romans de Claude Simon. Maintenant, je m'y suis un petit peu plus fait, même si le texte continue de résister. Mais je suis fasciné et plein de gratitude pour ces auteurs qui réussissent à nous proposer des formes de beauté inattendues et qui résistent, quoi, qui ne passent pas comme une lettre à la poste. Je pense que c'est ça qu'on attend de l'œuvre d'art, c'est de nous réveiller tout le temps.
Quelques pages plus loin, Naïma décrit une scène dont on ne sait pas très bien si elle la rêve ou si elle a eu lieu, et cette incertitude est plutôt plaisante, une scène de carnaval. Elle imagine ou elle raconte que les hommes et les femmes cabossés, mutilés, qui se retrouvent dans cet hôtel, vont dans les rues de Tunis défiler. Et en lisant cette scène-là, je me suis dit, mais le carnaval, la farce, c'est peut-être aussi le bon registre pour dire quelque chose des violences de l'histoire contemporaine. Est-ce que ça vous paraît juste de le dire comme ça?
Ah oui, tout à fait. Pour reprendre une forme d'ascendant sur les choses qui nous écrasent, essayer de remontrer à quel point il y a aussi du grotesque chez les gens qui voudraient en imposer, chez les puissants. Les puissants, on le voit bien avec Donald Trump, qui est à la fois un grand criminel, hein, c'est évident, là, vu tout ce qu'il a pu cautionner ces derniers temps et vu la politique qu'il mène. Et en même temps, c'est aussi un immense clown, quoi. Et il faut arriver à dire les deux en même temps, pas simplement le prendre à la légère, mais pas simplement aussi tout d'un coup le révérer et l'accueillir comme on accueillait d'autres hommes politiques plus sérieux. Donc oui, là, je suis en train de me perdre. J'aurais jamais dû le citer.
Non, mais on vous suit très bien. C'est-à-dire que le clownesque, c'est peut-être le registre.
C'est le moment.
C'est le nôtre aujourd'hui.
Oui, mais c'est aussi un moment de liberté, quoi. On reprend une liberté sur les choses qui nous écrasent, quoi. En montrant le côté comique ou le côté grotesque, on arrive à sortir la tête de l'eau, on respire à nouveau.
Et en riant, hein, parce que c'est un livre, j'espère qu'on l'aura entendu, voilà, à la lecture duquel on rit beaucoup. Le Book Club continue. Et chaque jour, en fin d'émission à 7h, nous mettons en lumière un événement en lien avec le livre et la lecture. Aujourd'hui, je voudrais vous signaler la tenue prochaine du Festival du Polar qui aura lieu dans la très belle ville de Villeneuve-les-Avignon du 5 au 9 novembre prochain, dans le superbe cadre de la Chartreuse, ancien monastère devenu centre des écritures du spectacle. Depuis 20 ans, des auteurs de romans noirs investissent les espaces pour rencontrer les lecteurs, les lectrices. Une trentaine d'auteurs seront présents cette année, parmi lesquels Victor Del Arbol, David Van, Sophie Loubière, Louise Oligny, Yvan Robin et bien d'autres. La thématique de cette 21e édition s'intitule « À armes égales » et elle interrogera notamment la question de la place des femmes dans le polar aujourd'hui. Rencontres, dédicaces, tables rondes, jeux, expositions, spectacles, lectures, projections et un prix des lecteurs. On renvoie vers le programme complet de la manifestation sur le site de l'émission.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Et comme chaque jour à 7h, en toute fin d'émission, on joue à notre grand jeu des pages musicales. Je vous en rappelle le principe, Arnaud Bertina. Si vous, au cours de vos lectures, là, dans les jours qui viennent, vous repérez un passage dans lequel il est question d'un morceau de musique, s'il vous plaît, prenez-le en photo, et vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices, et envoyez-le nous via le compte Instagram de l'émission ou à l'adresse mail lebookclub@radiofrance.com. On pioche chaque jour dans cette petite base de données qu'on se constitue grâce à vous, pour se quitter en musique. Aujourd'hui, on a trouvé une référence musicale dans votre livre à vous, Arnaud Bertina. On se quitte donc avec la lecture d'un dernier extrait. Nous sentions qu'il fallait s'amuser, aller chercher l'humour enfoui sous les angoisses. L'une d'entre nous a proposé un carnaval. Une autre a répondu: mais c'est déjà tous les jours carnaval ici, t'as vu nos couleurs? T'as vu nos masques et les déguisements des Libyens? Moi peut-être, mais elle est là, l'idée en or, une parade, on organise une parade. D'autres voix se mêlent aux nôtres. Rio, les chars, la musique. Ouais, pas le carnaval de Venise où ils sont tous masqués, mais celui de Rio où tout le monde danse. Une descente en ville, une descente de frics pour faire pleurer les mômes. Halloween sans les bonbons. On va faire peur? Ouais, ce sera magique, des morts vivants, des estropiés, des zombies, des momies, des femmes sans figure, évidemment, sans effort. Des momies poussant des brancards d'estropiés, la nuit des morts vivants. Michael Jackson dans Thriller. Mais je ne voulais pas faire peur, moi. In the dark. Un très grand merci Arnaud Bertina d'avoir été avec nous pour parler de ce livre « Des obus, des fesses et des prothèses », titre que je ne me lasserai jamais de prononcer. Il a paru aux éditions Verticales. Aujourd'hui à la prise de son, c'était Edouard Rubinstein, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, tout particulièrement Jeanne Aléos aujourd'hui, mais aussi Noé Margas, Marianne Chassor, Léa Weissgruss, Cyril Marchand et Alexandre Alaï-Begovic qui continuent d'animer la conversation que nous poursuivons sur le compte Instagram de l'émission.